la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour, nous sommes le vendredi 26 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Fumée blanche chez Bipost, la direction et les syndicats ont finalement trouvé un accord pour adapter la situation du personnel tous les 18 mois en fonction du volume du courrier. Les fournisseurs chinois d'infrastructures télécom ont été écartés il y a plusieurs mois déjà pour les risques de piratage. Pourtant, leurs antennes sont encore présentes à proximité de districts stratégiques. L'Écho a sorti son grand guide élection, un comparateur de programmes pour vous aider à vous y retrouver entre les différents partis et voter en connaissance de cause. Je suis Laurent Fabry et je vous accompagne pour ce brief.
Le brief, cette info, dès 7h.
La Chine est accusée de tous les maux en matière d'espionnage informatique, notamment aux États-Unis. C'est le réseau TikTok, par exemple, qui est dans le collimateur. En Europe, chez nous, ce sont des fournisseurs d'infrastructures télécom qui sont regardés d'un très mauvais œil. Il y a quelques mois déjà, la Belgique avait donc décidé de se passer des fournisseurs à haut risque, dont les Chinois, pour déployer la 5G. Pourtant, ces fournisseurs sont encore bien présents sur notre réseau. Arnaud Martin, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous avez mené l'enquête à ce sujet pour l'Écho. Comment expliquer qu'il y a encore des fournisseurs dits à haut risque sur le réseau belge ?
Pour bien comprendre ce dossier, il faut un peu revenir en arrière. Donc, il y a 4 ans, le ministre des Télécoms a évincé indirectement du marché belge des fournisseurs à haut risque, donc Huawei et ZTE, pour le déploiement de la 5G. Du coup, à l'époque, les opérateurs ont décidé de travailler avec d'autres fournisseurs, donc qui sont Ericsson et Nokia, pour le déploiement du nouveau réseau. 2 ans plus tard, il y a un arrêté royal qui a été mis en place pour encadrer ce remplacement. Et il prévoit du temps pour les opérateurs pour faire ces changements, donc 2028 pour la partie centrale et 2031 pour le reste des antennes. C'est un délai assez long qui s'explique pour des raisons économiques et pratiques. Ça coûte cher et c'est assez compliqué de faire tous ces remplacements. Du coup, même s'il y a encore beaucoup de fournisseurs à haut risque sur le réseau, les opérateurs pour le moment respectent les règles.
Alors en gros, donc les ambitions sont posées, mais les actes ne suivent pas encore tout à fait, ou en tout cas ça prend du temps, mais c'est interpellant quand même. On voit encore des opérateurs chinois dans des quartiers très sensibles de la capitale, comme près du siège de l'OTAN par exemple.
Il y a 2 ans, au moment de la publication de l'arrêté royal, l'État a cartographié une série de zones où il était impératif de se passer de ses fournisseurs à haut risque. C'est typiquement par exemple près des ambassades, des aéroports ou encore près de l'OTAN. Du coup, au moment de mettre en place un calendrier de remplacement de ces antennes, il aurait été assez logique d'imposer le remplacement en priorité de ces antennes. Mais à l'époque, aucune décision n'a été prise sur ce point. Et donc, les opérateurs se sont appuyés sur d'autres raisons ou choix stratégiques pour faire leur remplacement, comme par exemple l'octroi de permis, etc. Ce qui fait que les zones sensibles ne sont pas prioritaires dans le démantèlement des antennes avec des équipements à haut risque. C'est une situation assez paradoxale, puisque d'un côté, l'État ne souhaite plus du tout voir certains fournisseurs dans des zones précises, mais de l'autre, l'État n'a pas poussé ses opérateurs à enlever ses antennes en premier lieu dans ces zones.
Merci Arnaud. C'est la fin de la grève chez Bpost. Enfin, me direz-vous, après 4 jours, les piquets ont été levés, mais il faudra encore un peu de temps pour résorber, évidemment, les retards pris, surtout avec le 1er mai qui arrive. En tout cas, ça y est, les syndicats et la direction sont arrivés à un accord ce jeudi. La situation des travailleurs de Bpost sera adaptée tous les 18 mois, selon l'évolution du volume de courriers et de colis à transporter. La question de la distribution des journaux n'est cependant encore pas totalement tranchée. Côté francophone, les syndicats s'opposent toujours à la piste proposée par la direction, celle de faire distribuer la presse par sa filiale AMP, qui travaille davantage avec des indépendants. Les syndicats semblent en tout cas avoir eu des assurances de ce côté. Si Bpost conserve le marché, la distribution sera assurée par des postiers. En Flandre, par contre, les éditeurs de journaux ont trouvé un accord. À partir du 1er juillet, les journaux flamands seront bien distribués par les travailleurs des AMP. Je vous en parlais hier, Meta a publié mercredi soir des résultats meilleurs que prévu. Pourtant, l'action de la maison mère de Facebook et Instagram a plongé de plus de 10% hier. Alors pourquoi ? Eh bien parce que d'abord, les prévisions pour le trimestre en cours ne sont pas terribles, mais surtout, les investisseurs ont mal digéré la hausse des dépenses liées à l'intelligence artificielle. Hier soir, c'était au tour de Microsoft et Alphabet de publier leurs résultats. Et là, tout va bien. Microsoft signe un trimestre supérieur aux attentes sur tous les critères. L'intelligence artificielle dope les résultats, surtout l'activité cloud la plus observée par les marchés, sans pour autant que les dépenses explosent. De son côté, Alphabet a annoncé cette nuit son premier dividende de 20 cents par action. C'est presque une surprise alors que la maison mère de Google dépense également des sommes astronomiques pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle générative. Dans les échanges après bourse, Alphabet grimpait de plus de 13% cette nuit et Microsoft de 5%. Mais Wall Street a été plombé par Meta hier et puis les mauvais chiffres du PIB américain ont aussi pesé sur les cours. Ce matin à Tokyo, les marchés étaient suspendus aux lèvres de la Banque du Japon qui a finalement maintenu ses taux inchangés après les avoir relevés il y a quelques semaines. Le géant minier BHP veut racheter son rival anglo-américain pour 39 milliards de dollars. Ça pourrait être évidemment l'une des plus grosses opérations de l'année. Anglo-américain possède des mines au Chili, en Afrique du Sud, au Brésil ou en Australie. Sa capitalisation boursière tourne autour de 36 milliards de dollars. BHP pèse pas loin de 5 fois plus. Alors pourquoi maintenant et qu'est-ce que BHP a y gagné ? J'ai posé la question au directeur des investissements de la banque Edmond Rothschild, Frank Vranken.
Ben, je dirais que tout tourne autour du fait que BHP veut renforcer sa présence dans l'activité minière du cuivre, parce qu'on est dans un monde qui s'électrifie davantage. On a besoin de beaucoup plus de capacités de storage, donc les data centers par exemple en effet. Et donc là, clairement, la demande pour le cuivre va davantage augmenter. Il explose déjà à l'heure actuelle. Et donc, pour BHP, qui ont compris de leur côté que c'est là le relais de croissance premier, mais ils trouvent qu'ils ne sont pas encore suffisamment présents. Et donc, éventuellement racheter Anglo-American, ça leur donnerait ensemble une part de marché de 10%. Ça deviendra plus ou moins la première partie mondiale.
L'arrivée de ce potentiel mastodonte confirme en tout cas un vent de changement dans le secteur des matières premières.
Mais déjà, je pense que ça relance l'idée d'une consolidation parce que, en fait, longtemps, ce qui s'est passé dans le passé, c'est que typiquement, pour tout ce qui est matières premières, lorsqu'un prix monte quelque chose, on va davantage forer, on va davantage creuser pour obtenir une production supérieure, profiter du prix. La plupart du temps, ça menait à la longue à une surcapacité. Ce qui s'est passé, je dirais, la dernière décennie, c'est que la plupart des sociétés minières ont appris leurs leçons et n'ont pas dardard été forées ou creusées et augmenté leur production parce qu'il y avait, je dirais, davantage de discipline qui s'est instaurée. Cela veut dire que la plupart des sociétés sont devenues plus saines, mais aussi plus riches et plus à même de faire de la croissance externe. Ça veut dire acheter une autre société au lieu d'aller, en effet, forer quelque part pour augmenter leur production de cette façon-là.
Mais le deal n'est pas encore tout à fait fait, il n'y a aucune certitude de la conclusion d'un accord. Le conseil d'administration d'Anglo-American va très certainement vouloir faire monter les enchères. Le 9 juin, vous allez vous rendre aux urnes pour voter. L'enjeu est grand et ce n'est parfois pas simple de s'y retrouver dans les programmes des différents partis. C'est la raison pour laquelle l'Écho a créé le guide élections. Benoît Mathieu, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous vous êtes investi dans la conception de ce fameux guide élections. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne.
Alors ce qu'on a voulu faire, c'est aller un peu plus loin que les tests électoraux classiques où on pose une trentaine de questions et on répond par oui, non, parce que souvent il y a quand même beaucoup de thématiques qui sont plus complexes et où la réponse ne peut se limiter à un oui ou à un non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les programmes électoraux complets des 6 partis francophones qui sont présents à la Chambre et on a listé une soixantaine de questions et de thématiques importantes, questions de société, questions de fiscalité, de mobilité, d'environnement, de justice, de police, de terrorisme. On a listé donc 60 questions et on a été voir ce que les partis en disaient. L'intérêt principal de l'outil, je pense, c'est de pouvoir aller s'y promener 5 minutes, 10 minutes, 1 heure en fonction de l'intérêt qu'on a pour la politique et de pouvoir voir concrètement quel parti propose les choses qui nous parlent le plus. Donc c'est vraiment, à mon avis, un excellent outil pour aller voter en connaissance de cause.
Merci Benoît, et puis j'en profite pour vous glisser le lien vers le guide élection dans les notes de l'épisode. Alors l'une des questions au centre des programmes de tous les partis, c'est la taxation. Globalement, droite ou gauche, ils promettent tous de réduire les charges sur le travail. Eh bien justement, un nouveau rapport de l'OCDE vient de rappeler cette nécessité. Son constat est sans appel, la Belgique est championne du monde de la taxation du travail. Dans aucun autre des 39 pays de l'OCDE, la différence entre le salaire brut et net est aussi grande que chez nous. Et ça vaut en particulier pour les célibataires sans enfants, avec un salaire moyen à élever, ainsi que pour les couples à double revenu sans enfants. Les moyens proposés pour réduire la taxation du travail varient selon les partis. Certains proposent de relever le montant exonéré d'impôts, d'autres de permettre davantage de flexi-jobs non imposés, ou pourquoi pas une réforme fiscale qui traiterait à la fois le travail et la fortune. Bref, des suggestions vont bon train, mais en attendant, le constat est là. Le certificat de performance énergétique des bâtiments, le PEB, est devenu un incontournable ces dernières années, en particulier depuis la crise énergétique. Et pourtant, il est très contesté. Vous l'avez peut-être vécu vous-même, un mauvais PEB peut refroidir les banques dans la négociation d'un prêt ou bien faire fuir des acquéreurs potentiels d'une maison ou d'un appartement. En région bruxelloise, la réforme du certificat PEB vient d'être approuvée en première lecture ce jeudi. Et visiblement, elle était nécessaire, cette réforme, comme l'explique Julien Simon, il est conseiller en charge de la question au cabinet du ministre Alain Marron.
Donc c'est effectivement une demande du secteur et des professionnels de pouvoir améliorer la précision des certificats PEB, faire évoluer la méthode de calcul. Et c'est d'autant plus important que maintenant arrivent des normes énergétiques sur le bâti existant. Et donc le certificat PEB est l'outil finalement pour rénover et rénover en priorité les passoires énergétiques. Donc la qualification de ces passoires est définie par ce certificat PEB. Donc ce certificat PEB est central finalement pour la rénovation du bâti.
Le PEB deviendra obligatoire pour tous les biens immobiliers à partir de 2030. Le but, c'est effectivement d'éliminer de plus en plus les passoires énergétiques. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui change dans cette réforme du PEB? Les précisions de Julien Simon.
L'objectif, c'est bien d'améliorer la qualité et la cohérence des certificats PEB, arriver vers des certificats PEB qui sont plus proches de la consommation réelle. Et donc, c'est aussi avoir un certificat PEB qui est plus lisible, situer quels travaux sont nécessaires. Et alors, c'est aussi dans cette réforme la volonté de renforcer la qualité des professionnels de la PEB, de ces certificateurs qu'on appelle maintenant experts PEB, renforcer la formation, et c'est aussi créer une méthode de calcul qui est unique. Aujourd'hui, il y avait deux méthodes de calcul, une méthode pour les bâtiments existants et une méthode pour les bâtiments neufs. Ici, on crée une méthode unique pour les deux types de bâtiments. Et par ailleurs, cette réforme comprend aussi une accélération de la décarbonation de la chaleur avec une meilleure prise en compte des solutions décarbonées comme les pompes à chaleur, la mobilisation, géothermie et autres. Et alors, la réforme comprend aussi une obligation d'intégration du solaire, notamment pour le neuf et pour la rénovation lourde, mais aussi pour le bâti public existant.
Et puis la réforme permettra aussi d'harmoniser davantage les PEB entre les trois régions du pays avec les mêmes méthodes de calcul. C'est la fin de ce brief. Merci à Ondine Ouérès d'avoir préparé cet épisode. N'oubliez pas de voter pour le brief au Belgian Podcast Award. Il est encore temps et chaque vote compte. Je vous remets le lien dans les notes. Je vous retrouve ce lundi avec un brief spécial élection. Notre invité sera Raja Mawan, la coprésidente d'Ecolo. Il sera évidemment question avec elle de la réforme du décret paysage, votée en plénière cette nuit avec le soutien du PTB. À lundi, bon week-end, salut!
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.